CFM, le mag. Le mag.
Et tout de suite dans le mag du Tarn sur CFM, on va parler de plantes. Et c'est dans Plantes, histoire de plantes, en partenariat avec le Jardin des Merveilles de Vaour. Rémi Culic nous parle aujourd'hui et bien de l'églantine.
Bonjour, je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire de la rose sauvage, une plante commune de nos campagnes, aussi appelée églantine ou rose des chiens, et de son aventure amoureuse avec un oiseau. L'églantier est l'ancêtre de toutes nos roses cultivées. Il fait partie de la famille des rosacées, comme beaucoup de plantes que nous connaissons tous. La plupart de nos fruits, par exemple, qu'ils soient à noyaux ou à pépins, sont de cette famille. Les pommes, les poires, les coings, pêches, abricots, cerises, prunes, mais aussi mûres, framboises et fraises sont de la famille des rosacées. Les églantiers sont des arbrisseaux épineux formant des buissons impénétrables pour les grands animaux, comme les cerfs, les chevreuils, voire les humains. C'est pour cette raison que de nombreux oiseaux aiment y faire leur nid. Il en existe plusieurs dizaines d'espèces, se couvrant au printemps de nombreuses fleurs, pouvant aller du blanc pur au rouge en passant par toutes les nuances de rose. Son fruit, le cynorhodon, parfois appelé le gratte-cul, contient autour de ses graines des poils très fins, pouvant effectivement servir de poils à gratter. Et sa chair, très riche en vitamine C, est un délice. Son nom de rose des chiens viendrait du fait que sa racine aurait été utilisée pour soigner les morsures faites par des chiens enragés. À ceux parmi vous qui seraient trop avides de science, fermez maintenant les écoutilles. La suite de cette chronique n'est pas pour vous. Je vais maintenant vous conter la vraie histoire de l'églantier à fleurs rouges et vous dire comment il est né. La rose sauvage, ou églantine, est un symbole de passion et de jalousie. Dans le langage des fleurs, offrir une églantine à sa bien-aimée, c'est lui avouer « je meurs de jalousie pour toi ». Voilà donc l'origine de cette histoire. C'était il y a bien longtemps, au temps où la nature n'était pas encore soumise aux caprices de l'homme. En ce temps-là, les chiens étaient encore des loups et les roses des églantines. À chaque printemps, les couples d'oiseaux migrateurs s'établissaient chacun sur leur territoire. L'un d'eux, un couple de rossignols, avait l'habitude de s'installer dans un buisson d'églantines majestueux. Là, protégés par les épines acérées, les oiseaux se sentaient à l'abri des regards indiscrets et des coups fourrés des prédateurs. Comme à chaque printemps, le mâle, à peine revenu, entonnait une longue mélodie. Son chant, digne des plus grands virtuoses, était destiné à faire renaître en sa compagne le désir d'une union proche. Et comme à chaque printemps, la femelle finissait par succomber au chant élogieux de son intarissable compagnon. L'acte de séduction accompli, une étrange sensation de fierté s'emparait du rossignol. Le géniteur redoublait alors d'ardeur et emplissait le buisson d'un fantastique et inégalable concert solo. Était-ce le fruit du hasard? Aucun ne put jamais l'affirmer, mais cet instant magique coïncidait chaque fois avec l'explosion de la floraison de l'églantier. Chaque fois, comme inspiré par la symphonie de l'oiseau, de magnifiques fleurs blanches s'épanouissaient et embaumaient l'alentour. Ce phénomène se reproduisait chaque printemps avec une telle constance que le rossignol finit par croire qu'il était responsable du phénomène. Et il finit même par croire qu'il avait deux amours, sa femelle légitime et l'églantine. Ainsi alla la vie des oiseaux, ponctuée par la floraison féerique des roses sauvages. Ainsi alla la vie de l'églantine, rythmée par le retour immuable des rossignols. Ainsi alla la vie du buisson tout entier jusqu'à ce printemps-là. Dame nature, comme toute déesse mère, est sensible à la nuit. Elle invente alors pour se distraire divers stratagèmes, une tempête par-ci, un ouragan par-là. Cette année-là, elle trouvait le temps si long qu'elle décida d'avancer l'arrivée du printemps de quelques jours. Oh, rien de bien méchant, quelques jours de froid en moins, quelques belles journées ensoleillées en plus, et le tour fut joué. Les habitants du lieu, ceux qui ne migrent pas, avaient grandement apprécié la chose. Mais ceux qui ne pouvaient rester sur place à cause des grands froids, ceux-là eurent à leur retour d'hivernage une surprise de taille. La plupart se remirent rapidement à leurs occupations afin de rattraper le cours du temps, qui s'était déroulé plus vite que prévu. Mais d'autres furent choqués. Ce fut le cas des rossignols. L'églantier, leur églantier, orné d'une multitude de fleurs, était déjà tout de blanc vêtu. Les noces printanières auraient-elles été célébrées sans eux? C'était impossible. La femelle rossignol, troublée, resta prostrée une demi-journée. Puis, les instincts réveillés par les parfums du buisson, elle en fit le tour. Comprenant qu'il n'était pas occupé par d'autres oiseaux de sa race, elle fut vite rassurée, reprit tranquillement ses activités et se mit en devoir de trouver le meilleur emplacement pour son nid. Mais son époux ne l'entendait pas ainsi. Lui devint fou de douleur. L'églantine est en fleurs. Elle n'a pas attendu mon récital. Qui donc lui a fait l'aubade pour qu'elle soit ainsi en robe de noces? Le rossignol se croyait trompé. Jaloux, il pensait que si l'églantine était ainsi en fleurs, c'est qu'elle avait reçu la visite d'un autre oiseau. Et sans réfléchir plus, il se jeta à corps perdu sur le buisson d'épines, à la recherche de son rival. Il ne se rendit pas compte que son adversaire n'existait que dans son imagination. Il se déchaîna tant contre le pauvre rosier que, 100 fois, il vint à s'écorcher sur ses épines acérées. L'églantine tenta bien de le raisonner, lui expliquant que chaque printemps, elle le célébrait avec les insectes et le vent, et que si l'épanouissement de ses fleurs coïncidait avec son retour, ce n'était que pur hasard, les deux phénomènes n'étant en vérité pas liés du tout. L'églantine ne put rien faire pour chasser les chimères qui aveuglaient l'esprit de l'oiseau. La colère le rendait sourd à toute explication. Impuissante, elle comprenait que le rossignol se battait contre lui-même, contre sa vanité et ses certitudes. Et à chaque assaut, le sang de l'oiseau coulait un peu plus. Et à chaque assaut, il se répandait sur les fleurs blanches et le feuillage qui, peu à peu, se teintait de carmin. Le rossignol ne s'arrêta que lorsqu'il fut à bout de force. Alors, il murmura, « Églantine, je t'aimais tant. » La pauvre plante ne put consoler celui qui se croyait son seul amant. Elle en fut si attristée qu'elle pensa même se laisser faner. Heureusement, elle n'en fit rien. Le bruissement des abeilles et le vol des papillons l'en dissuada. Songeant à tous les autres habitants que son généreux buisson devait nourrir, elle resta en fleurs. Elle se réjouit lorsqu'elle vit la femelle rossignol réconforter son prétendant. Quelques jours suffirent pour le remettre sur pied, et la vie l'emporta sur la jalousie. Et comme chaque année, une nouvelle nichée égaya de ses cris le buisson d'épines. Les oisillons furent les premiers de leur espèce à naître dans une buisson de roses rouges. Leur mère se garda bien de leur conter cette histoire. Et l'églantine, émue par la passion qu'elle avait déclenchée, conserva la couleur du sang répandu par amour pour elle, par un rossignol. Et depuis, à chaque printemps, l'églantine se pare de magnifiques fleurs rouges aux senteurs envoûtantes. On le sait maintenant, les fleurs n'oublient pas. Pour ceux qui aimeraient ce genre d'histoire, je vous invite à aller lire les livres de Bernard Bertrand, qui est l'auteur de ce conte. Il a écrit de nombreux livres sur les plantes, qui sont très bien pour les enfants, les adultes et tout le monde. À bientôt.
CFM
de Cahors à Albi.
De Cahors à Albi.
L'esprit rock.